Ce matin, pour mon message, j'aimerais continuer avec quelques pensées que j'avais commencé à élaborer à partir de l'épître de Paul aux Philippiens il y a quelques semaines. Mais j'avais déjà fait assez long la dernière fois, donc je me suis arrêté. Mais ce matin, j'aimerais que nous revenions à cet épître de Paul aux Philippiens, qui me parle beaucoup en ce moment, car c'est une lettre écrite pour exprimer de l'affection et pour combler le vide qui est causé par la séparation. J'aime cette épître aussi, car c'est une lettre pleine d'encouragement et qui nous met au défi de vivre pour ce qui est vraiment important. L'un des passages donc que j'ai mentionné la dernière fois, sans entrer dans tous les détails, est Philippiens chapitre 3, les versets 17 jusqu'au chapitre 4 au verset 1. Philippiens 3, 17 à 4, 1, que je vous invite à lire maintenant avec moi. Paul écrit « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir. Ma joie et ma couronne demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Dans ce passage, Paul avertit et il exhorte. Il exhorte les frères et sœurs à demeurer fermes dans le Seigneur. C'est son but dans ce passage. Qu'ils vivent leur foi sans compromission. Qu'ils vivent leur foi sans abandonner Christ sous le poids des tentations, des faux enseignants et des persécutions qui font pression sur eux. En même temps, il avertit, car il y a des gens qui ont fait des compromis avec le monde. Il y a des gens qui ne suivent pas Christ et qui veulent pousser ces chrétiens à faire de même. Et Paul rappelle donc le contraste entre ceux qui marchent en ennemis de la croix et ceux qui marchent sur les traces de Christ. Pour les ennemis, leur fin, c'est la honte et la perdition. Mais notre fin, dit Paul, c'est la gloire et la résurrection. Leur Dieu, dit Paul, c'est leur ventre, leur appétit mauvais pour toutes choses et les péchés. Mais notre Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ qui va venir nous chercher. Eux ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans le ciel. Paul nous montre donc qu'il y a deux réalités et deux destinées radicalement différentes. Et il nous faut choisir entre ces deux. Les chrétiens doivent continuer à faire le bon choix qui mène à la gloire, à la vie, à la résurrection et à la cité céleste. Et cette expression que Paul utilise ici est particulièrement intéressante. Au verset 20, il dit « Notre cité est dans les cieux ». Peut-être que votre traduction de la Bible dit « Notre citoyenneté est dans les cieux », ce qui traduit même plus littéralement l'expression de Paul. Donc, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela change? Dans mon porte-monnaie, j'ai une carte d'identité. Et sur cette carte d'identité, on trouve ma citoyenneté. Je suis citoyen suisse. Et aussi ma ville d'origine, la fabuleuse ville de Lausanne. Et je porte cette carte d'identité non sans un peu de fierté de l'avoir sur moi. Si vous me connaissez, vous savez même que je suis binational, avec un nom comme Smith, on s'y attendait. J'ai aussi la citoyenneté américaine. Mais vous savez quoi? Même si j'ai deux passeports de différentes nationalités, j'ai une autre citoyenneté, plus importante et plus grande. Et si je n'ai pas reçu de passeport à mon baptême, je sais que cette carte d'identité spirituelle est plus importante que les deux autres. Je suis citoyen du ciel, de la cité de Dieu. Et Paul rappelle à ces chrétiens, qui venaient sans doute de toutes sortes de classes sociales différentes, qu'ils ont une chose qui les unit. Et cette chose, c'est leur citoyenneté dans la cité céleste, la cité de Dieu. Et j'aimerais ce matin réfléchir à quelques éléments de notre vie qui sont transformés par cette réalité que nous sommes citoyens du ciel. La première, c'est que puisque nous sommes citoyens du ciel, notre motivation dans la vie et notre assurance sont célestes plutôt que terrestres. Et ça, c'est le message principal de Paul dans ce passage. Que puisque notre cité est dans les cieux, notre assurance et notre motivation principale est céleste plutôt que terrestre. En contrastant avec les ennemis de la croix, la citoyenneté céleste est opposée aux pensées des choses qui sont de la terre. Je relis un extrait des versets 19 et 20. « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais pour nous, notre cité est dans les cieux. » Être citoyen du ciel est donc une question d'abord de priorité, ce à quoi nous pensons au quotidien, et bien entendu d'espérance, ce que nous attendons de Dieu pour l'avenir. Puisque nous sommes citoyens du ciel, nous devons donc nous préoccuper des choses d'en haut, plutôt que des choses terrestres. À quoi est-ce que cela ressemble? Bon, une lecture de Philippiens peut nous aider, mais j'aime ce passage dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4, où Paul enseigne sur ce même thème. Il dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'était Colossiens 3, les versets 1 à 4. Tout le chapitre, en fait, de Colossiens 3 est un exemple de comment se préoccuper des choses d'en haut. Des instructions très concrètes sur comment penser aux choses de Dieu, et à ses plans et ses désirs plutôt qu'aux préoccupations du monde. Et nous allons y revenir un peu plus en détail par la suite. Mais se préoccuper des choses célestes consiste à chercher la volonté de Dieu dans toute chose, et pas seulement dans notre vie, entre guillemets, religieuse. C'est dans notre travail, dans notre vie familiale, avec nos amis, dans nos loisirs, dans les questions sur comment nous dépensons notre temps et notre argent, de penser d'abord à quelle est la volonté de Dieu et est-ce que ces choses me rapprochent, m'éloignent de Dieu? Est-ce que ces choses sont motivées par l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain ou par un égoïsme matérialiste? Vivre avec la pensée de ce qui est en haut, c'est mettre l'amour de Dieu et du prochain à la première place dans toutes nos décisions. Et c'est vivre selon les commandements du royaume de Dieu plutôt que celles des hommes. J'ai pu faire maintenant, il y a plus d'une décennie, une année de stage et de formation spirituelle à Marseille dans l'école de la foi chrétien en mission. Et pour moi, c'était un choix facile de le faire à la fin du gymnase ou lycée ou collège, en fonction de où vous habitez, ce qu'on appelle, parce que j'allais faire ensuite des études de la Bible, de théologie, pour être prédicateur. Donc, bien sûr, prendre une année pour aller étudier la Bible et travailler, servir dans une église, quoi de plus naturel? Mais pour mon frère et ma sœur et pour bien d'autres personnes, qui ont fait cette année de chrétien en mission, il s'agissait d'arrêter leurs études, que ce soit en chimie, en physique ou en d'autres domaines, pour aller étudier la Bible, pour aller servir des gens dans le besoin, pour aller apprendre à aimer et à aider dans l'Église, et ensuite revenir aux études. Et il y avait toujours des personnes qui disaient « Bon, n'est-ce pas un grand risque que tu prends là, en faisant une pause dans tes études? Ne mets-tu pas en danger tes résultats scolaires pour la suite? Ne mets-tu pas en danger ton avenir professionnel aussi ?» Et la réponse de ceux qui ont pu étudier avec moi ou après, c'était « Je veux chercher d'abord les choses d'en haut. Je veux grandir et affermir ma relation avec Dieu, avec l'Église, apprendre le service des autres et la connaissance de Dieu et de sa parole avant ces autres choses. » sans négliger l'importance d'étudier, de travailler et toutes ces choses. C'est d'abord d'affermir ma relation avec Dieu. Et un choix qui était facile pour moi était bien plus difficile pour d'autres. Mais ils cherchaient les choses d'en haut. Et donc Paul parle ici de nos priorités pour notre vie. Mais aussi, bien entendu, de notre espérance. Car si notre cité est céleste, nous attendons quelqu'un de cette cité. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, dit le verset 20, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre espérance est dans le ciel. Ce « de-là » que mentionne Paul, c'est la cité céleste. En tant que binational, vous savez, j'ai l'occasion de me faire du souci pour deux pays plutôt qu'un seul. Et souvent, je me fais du souci pour mes pays et pour ce monde dans lequel nous habitons. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et vous savez, Dieu ne veut pas que nous négligions ce monde. Nous y reviendrons aussi. Mais nous ne mettons pas notre espérance dans notre monde, dans notre pays ou dans notre ville. Je désire que mon pays prospère, mais je ne désespère pas si l'économie s'écroule, parce que ma cité est dans les cieux. Je désire la justice, mais je ne perdrai pas courage si l'injustice semble l'emporter, parce que ma cité est céleste. Je désire la paix, mais je n'abandonnerai pas mon espérance si la guerre nous frappe, parce que je veux surmonter ces épreuves, pas par ma propre force, mais parce que je sais que j'ai une cité céleste et un sauveur qui va venir me chercher. Ma cité est céleste. Et cette cité-là, la cité de Dieu, ne peut être ni vaincue, ni détruite. Tous les grands royaumes, tous les grands empires du monde sont tous tombés. Et chaque royaume et chaque empire puissant aujourd'hui va tomber un jour. Mais la cité céleste ne tombera jamais. Et je veux mettre mon espérance dans cette cité et dans ce pays. Puisque notre cité est céleste, nos priorités et notre espérance viennent de Dieu et viennent d'une attente de la vie éternelle auprès du Père. Et cela nous motive à vivre notre vie différemment. Mais cela nous encourage aussi à ne pas perdre courage lorsque nous sommes face au péché, au désespoir, aux terreurs de ce monde. Parce que nous savons que notre cité céleste dure à toujours. Bon, deux autres pensées plus rapidement qui viennent aussi de cette réalité que notre cité est dans le ciel, que notre citoyenneté est céleste. Une de ces deux choses, c'est que puisque nous sommes citoyens du ciel, nous obéissons à l'autorité céleste. Être citoyen, c'est aussi se soumettre aux lois de sa ville. Et je paye mes impôts à ma ville de Lausanne, à mon canton de Vaud, et à mon pays, la Suisse. Et je dois même déclarer dans l'autre pays. Mais cela vient avec la réalité que je suis citoyen. En tant que citoyen, je me soumets aux lois de mon pays. Et c'est intéressant, en relisant le passage dans Philippiens 3, que Paul ne dit pas « Vous savez, notre cité sera dans les cieux. » N'est-ce pas? Il dit « Notre cité et notre citoyenneté est dans les cieux. » C'est une réalité déjà présente. Même si nous n'avons pas encore ressuscité avec Christ, nous vivons déjà en tant que citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, nous sommes sous l'autorité du roi de cette cité, Jésus-Christ. Et nous devons nous soumettre à lui. Et notre citoyenneté céleste compte plus que notre citoyenneté terrestre. Vraiment, vraiment, notre appartenance à Dieu, notre soumission à Christ est plus importante que celle de notre pays, de notre ville, de nos lois, de nos différents pays. En tant que citoyens du ciel, nous sommes sous l'autorité de Christ. Et vous savez, les premiers chrétiens étaient généralement considérés comme séditieux et une menace pour l'Empire romain pendant les premiers siècles. Et ce n'était pas parce que c'était des criminels. Ce n'était pas parce qu'ils tuaient des gens, ils volaient ou autre. Mais c'était parce qu'ils reconnaissaient une autorité supérieure à celle de l'État. Il disait que Christ régnait au-dessus de toutes choses. Et il refusait de participer au culte de l'État. Il refusait de mettre leur espérance dans leur pays parce qu'il disait « Nous avons un Seigneur plus grand même que César ». Et malgré souvent l'exemplarité de leur comportement, ils étaient méprisés parce qu'ils reconnaissaient être citoyens d'une ville plus grande que Rome. Lorsque les apôtres sont confrontés aux chefs de Jérusalem qui leur disent qu'ils n'ont plus le droit d'évangéliser, ils n'ont plus le droit de parler publiquement de la résurrection de Christ et de son règne, voici ce que Pierre répond dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Bon, ça, ce n'est pas la réponse d'un révolutionnaire, c'est la réponse de quelqu'un qui sait qu'il est citoyen du ciel et qui va suivre les lois de sa cité. Le Nouveau Testament insiste sur notre responsabilité en tant que chrétien de nous soumettre aux autorités et aux maîtres. Mais si elle rappelle que cette soumission aux autorités et aux maîtres est importante, elle n'est pas un échappatoire pour désobéir à Dieu et à Christ. La raison d'État ou la raison professionnelle ne prime pas sur la raison céleste. Et notre privilège en tant que citoyen du ciel est énorme, mais notre responsabilité aussi. Et donc, en tant que citoyen, nous nous soumettons aux ordres de Christ avant tout. Et une dernière chose. Puisque nous sommes citoyens du ciel, nous sommes en quelque sorte des colons dans le monde. Plusieurs commentateurs et biblistes plus récents ont fait la remarque que de dire que votre citoyenneté est dans le ciel avait un sens particulier pour des gens qui habitaient dans une ville comme Philippe. Parce que Philippe, c'était une colonie romaine. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les citoyens de Philippe n'étaient pas considérés premièrement comme des Philippiens, mais comme des citoyens de Rome, qui vivaient autre part. En fait, la ville de Philippe, c'était un mini-Rome implanté au milieu de la Macédoine. Et l'idée de ces colonies, c'était qu'à partir de Philippe, à partir de cette ville où tout le monde était citoyen de Rome, bon, la gloire, la majesté, le génie de Rome pouvaient rayonner dans toutes les contrées avoisinantes. Bon, nous ne savons pas s'il y avait des citoyens romains dans l'église de Philippe, c'est possible qu'il y en avait, mais au vu de leur pauvreté et de leur persécution, probablement c'était plutôt des gens dans les marges de la société plutôt que l'élite qui était là. Mais ils avaient cette notion d'être citoyens d'une autre ville, mais qui était présente autre part. Et cette notion de citoyenneté représentative dans un autre pays, dans un autre lieu, devait être présente dans leur pensée. Les citoyens romains de Philippe portent le flambeau de Rome dans la Macédoine. Les citoyens du ciel de Philippe portent le flambeau du ciel en Macédoine et partout dans le monde romain. Quand on regardait Philippe, un étranger devait dire « Ah, voici comment est la gloire de Rome ». Mais vous savez quoi? Lorsqu'on regardait l'Église, les gens devaient dire « Voici la gloire de la cité céleste ». Et donc, voilà l'impact de notre citoyenneté céleste dans le monde. Pour les citoyens de la cité de Dieu, ils ont un impact à montrer au monde. Ils ont le génie de la cité de Dieu à manifester au monde. Et donc, puisque nous sommes citoyens du ciel, il n'y a pas simplement une vision de l'avenir et de l'au-delà, mais une réalité présente que nous devons mettre en pratique. C'est un message pour maintenant, parce que nous pouvons penser à l'Église comme une petite colonie du ciel, ici sur terre. Nous affirmons que Christ règne sur le monde et l'univers entier. Mais la réalité de son règne se voit dans l'Église. Et c'est une des raisons que nous avons tellement besoin de nous réunir et d'être ensemble. Parce qu'ainsi, nous pouvons montrer les uns aux autres, mais aussi au monde, l'amour et la beauté du règne de Christ. C'est la vie des saints qui sont en train de former une cité, une mini-cité céleste sur terre, dans l'attente de la venue de la cité céleste avec Christ. Pour terminer, j'aimerais lire pour vous la fin de ce passage que j'ai cité avant dans Colossiens chapitre 3. Il s'agit de Colossiens 3, les versets 9 à 17. Et lisez ce passage en entendant « Voici ce à quoi ressemble la vie des citoyens du ciel dans l'Église, dans notre colonie spirituelle ici sur terre. Cette lumière qui brille devant le monde. C'est Colossiens 3, les versets 9 à 17. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse.